Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh bien, une nouvelle fois, nous allons mettre à la une ces industriels qui croient au Made in France. On va parler avec deux invités. Tout d'abord, Arthur Alamand. Son entreprise Groupe Savoie vient de s'allier avec trois autres entreprises de Haute-Savoie afin de produire en France un vélo électrique et un véhicule sans permis qui répondent au joli nom de cocotte, c'est le vélo, et de la bagnole, c'est bien sûr la voiture. Lui aussi fait le pari de la France et même de relocaliser en France. Notre deuxième invité est Valentin Dylan Schneider, cofondateur de Red Electric. Jusqu'ici, il faisait fabriquer en Chine des scooters électriques destinés aux professionnels. Eh bien, sa gamme de scooters pour les particuliers sera, elle, fabriquée dans la Sarthe. Enfin, en ce début d'été, eh bien, nous parlerons des glaces Amorino qui fêtent leurs 20 ans. Et ces glaces si italiennes en apparence sont en fait toutes fabriquées en France et vendues ensuite aux quatre coins du monde. On va donc beaucoup parler de relocalisation dans cette émission et plus généralement d'entreprises qui changent leur façon de produire avec le souci de fabriquer en France. Je commence avec vous. Bonjour Arthur Alamand.
Bonjour.
Vous êtes directeur commercial et marketing de Groupe Savoie, une entreprise basée donc en Haute-Savoie qui célèbre cette année ses 40 ans. Exactement. Elle a été fondée par votre père Émile en 1982. Rappelez-nous le cœur d'activité de Groupe Savoie qui s'appelait Savoie International.
Alors le cœur d'activité, on est équipementier automobile. Et on fabrique des pièces de décolletage, d'injection plastique et de mécatronique.
Et le chiffre d'activité, le chiffre d'affaires sur 2021?
C'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.
Pour 1000 salariés, je crois.
Exactement.
Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez une double actualité. D'abord, le changement de nom. Mm-hmm. Donc, c'était Savoie International jusqu'à il y a assez peu de temps. Et Groupe Savoie depuis peu. Donc, c'est quoi? C'est la crise de la quarantaine?
Pas exactement. Non, c'est bon, tout le monde utilisait le nom Groupe Savoie de manière commune au quotidien. Et puis il y avait une volonté aussi de se recentrer sur la France et de montrer qu'on est avant tout un groupe français qui est implanté en France et qui produit en France.
Alors justement, votre autre actualité, c'est la création d'un consortium qui s'appelle WeShift, donc nous changeons, et vous créez avec trois autres entreprises donc de ce que l'on appelle la vallée de l'Arve, c'est dans la Haute-Savoie. Quelles sont ces trois autres entreprises et qu'est-ce que vous allez faire dans ce consortium WeShift?
Donc les trois autres entreprises, c'est le groupe Pracartis, le groupe M2O et l'entreprise Alpusinage. Et donc l'idée, c'est d'aborder à plusieurs les problématiques de mobilité douce et de produire en France des solutions qui répondent à toutes les problématiques de mobilité douce.
Alors qu'est-ce que vous allez produire? Il y a un vélo, dans les titres.
Alors, un vélo électrique qui s'appelle Cocotte, qui a la particularité d'avoir une boîte de vitesse automatique et qui n'a pas de transmission par chaîne ou par courroie. On a une transmission par cardan. Donc, on a un vélo qui est fait pour le quotidien, qui nécessite aucune maintenance et qui a une très grande fiabilité.
Alors, ce vélo, donc, il n'a pas de chaîne, vous l'avez dit, il n'a pas de courroie, il a aussi un phare. Et vous vous êtes servi de votre expérience d'équipementier auto pour développer, en fait, ce phare vélo à partir de votre expérience auto.
C'est ça. En fait, on a pris en compte les problématiques qu'on rencontre dans les zones périurbaines où on est basé en Haute-Savoie. Et on se rend compte que les vélos éclairent rarement suffisamment bien. Et donc, on s'est dit, nous, on a toutes ces technologies dans l'automobile pour créer un phare de vélo qui est un peu différent de ce qu'il y a sur le marché actuellement. Et avoir un spectre lumineux qui est 6 fois plus large que ce qu'on trouve en standard dans les solutions du marché. Donc qui permet d'être vu, mais aussi de très bien voir la route quand on circule de nuit.
Donc ça, c'est le vélo Cocotte.
Exactement.
Il y a aussi un véhicule sans permis qui lui s'appelle tout simplement la bagnole. Ouais. Et c'est pareil, ça va être fabriqué par ce même consortium.
Exactement, c'est fabriqué en France. Et là, l'approche est un peu différente. On a une baseline qui est de dire moins c'est mieux. Donc on arrête de faire des véhicules qui font 2 tonnes. Et on fait un véhicule qui fait 283 kilos. et qui permet de faire tous les trajets du quotidien et rendre la base de l'automobile.
On en voit quelques images là pour ceux qui nous suivent en télé. Et là, c'était des images de neige. Il y en a souvent, j'imagine, en Savoie, en Haute-Savoie. Voilà. Donc lui, il est prêt, il est disponible à la commercialisation.
Donc les deux produits sont disponibles en précommande avec des premières livraisons pour le début de l'année 2023.
Alors, à quel tarif? Et pour le vélo et pour le véhicule?
Alors, pour le vélo, on est à 3 490 €. Et pour la voiture, on est à 10 000 € TTC avec la prime écologique déduite de 900 €.
Alors, ce qui n'est pas donné, là, je parle de la partie vélo. C'est quoi? C'est du moyen de gamme plus?
C'est ça, on est presque dans du haut de gamme. En tout cas, on est sur un petit bijou de technologie qui remplace une deuxième voiture dans un foyer.
Alors, donc, vous êtes au cœur du consortium WeShift. Au total, combien de salariés dans cette vallée de l'Arve?
Pour le consortium WeShift, dans la vallée de l'Arve, au total, il doit y avoir plus de 1200 salariés.
Et puis, un mot assez important quand même, c'est que vous allez fournir aussi des pièces que vous faites pour ce vélo et le véhicule à d'autres assembleurs, à d'autres fabricants en France.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est notre premier travail, c'est d'être équipementier et de pouvoir fournir à d'autres des pièces. Donc, autant la boîte de vitesse avec son système de transmission, on souhaite le vendre à d'autres fabricants de vélos. On peut aussi vendre le phare avec un design qui sera adapté pour chaque fabricant. Et puis, on a développé un système de freinage qui sera aussi en vente pour les autres fabricants de vélos.
Ce goût pour le produire en France, est-ce qu'il est né en 2020 et 2021? Parce que on va voir quelques images aussi. Vous avez été un producteur de masques très important pendant la crise du Covid. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes un peu plus mis en tête encore les enjeux d'écologie, certes, mais de souveraineté, de production et de Made in France?
En tout cas, on était fabricant français, on produisait en France, mais c'est vrai que sur l'aventure des masques, on est passé dans une autre dimension. Déjà, ça nous a permis de vendre en direct à des clients, là où avant, on passait par souvent des grands comptes, on était beaucoup sur du B2B. Et puis, on a totalement changé d'approche, c'est-à-dire qu'avant, on avait plutôt, on était dans des entreprises où on conservait vraiment les portes fermées, on faisait rarement rentrer des concurrents, alors que sur les masques, on est passé en entreprise étendue, on a beaucoup de partenaires qui sont venus nous aider, nous accompagner, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à lancer aussi rapidement une production industrielle de masques chirurgicaux FFP en France.
On parlera de l'importance de ces partenariats donc avec vous. Bonjour Valentin Dylan Schneider, vous serez en partenariat avec l'usine Chastanier, on en parlera dans quelques instants. D'abord je vous présente, vous avez co-créé Red Electric en 2015 à Nancy, vous produisez et vous vendez donc des scooters électriques vers les professionnels, le B2B, et vous allez aussi maintenant vers le marché des particuliers, le B2C, et cela va avoir des répercussions sur le produit en France. On en parle donc dans un instant, mais juste après ce reportage de Justine Vassogne à Nogent-sur-Oise en Picardie. C'est là que se trouve votre centre logistique où vous assemblez et vous personnalisez pour vos clients les scooters pour l'instant donc produits en Chine. Voyez le reportage de Justine Vassogne.
Aujourd'hui, on est à Nogent-sur-Oise, dans les Hauts-de-France, devant l'atelier logistique de Red Electric. L'entreprise vend des scooters électriques depuis 2018 et elle est déjà à un tournant de son histoire. On va voir ça.
Red Electric, Valentin Dylan Schneider en a eu l'idée en 2015. Passionné de scooter depuis tout petit, tout juste sorti de son école de commerce, il flaire le bon créneau.
On regarde le marché à cette époque, on voit que finalement il n'y a pas tant de concurrence que ça. Les grandes marques, les Peugeot, les Piaggio, elles font pas d'électrique. Donc nous on se dit qu'on a un créneau à prendre, on veut construire une marque forte et on l'attaque par l'intermédiaire des professionnels de la livraison. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'eux utilisent souvent le scooter. Donc ils ont un vrai intérêt pour le scooter électrique, un vrai intérêt économique et écologique. Et pour nous, ce sera beaucoup plus simple d'aller attaquer les pizzerias plutôt que les particuliers un par un.
Parmi ses clients, Amazon Prime, Getir ou des chaînes de franchise comme Pizza Hut ou Côté Sushi, avec 2500 scooters vendus à des entreprises aujourd'hui, Red Electric est l'un des leaders sur le marché. Un début seulement pour Valentin Dylan Schneider.
Nous, ce qu'on veut construire, c'est une marque européenne. Je le disais, c'est être demain concurrent d'un Peugeot ou d'un Piaggio. Donc pour ce faire, on s'est lancé sur le professionnel, mais bien évidemment, c'était logique qu'on aille également sur la gamme des particuliers.
Au mois de mars, Red Electric a commercialisé ses premiers scooters électriques conçus pour des particuliers. 80 ont été vendus à ce jour, entre 4 000 à 9 000 € selon le gabarit du modèle. C'est un peu plus cher que la concurrence actuelle, reconnaît Valentin Dylan Schneider, qui revendique un positionnement de milieu de gamme. Pour le moment, tous les scooters de Red Electric sont produits et assemblés en Chine. L'atelier de Nogent-sur-Oise sert surtout à la logistique. Dès l'année prochaine, Red Red Electric va commencer à relocaliser sa production en France, notamment à côté du Mans, où les scooters seront assemblés. Un virage vers le Made in France calculé.
Vendre un scooter électrique écologique qui vient de Chine, pour moi, c'est un non-sens. Et le deuxième point, c'est la partie effectivement marketing. On veut donner du sens à nos clients quand ils achètent un produit.
Avec l'augmentation du coût des transports, Valentin Dillenschneider assure qu'il ne perdra pas un euro dans cette relocalisation. Il sait aussi qu'un boulevard l'attend car le potentiel du marché du scooter électrique est énorme, avec une législation sans cesse plus contraignante pour les scooters thermiques. À partir du mois de septembre, à Paris par exemple, ils devront payer pour stationner.
Et en effet, on pourrait disserter longtemps sur la politique de circulation de la mairie de Paris, mais on va plutôt disserter du Made in France. Vous allez donc, Valentin, produire en France, dans la Sarthe, votre nouveau modèle, le modèle E, destiné, on le disait, au marché des particuliers. La production commence quand ?
Alors, la production, elle va commencer en fin d'année, et pour première livraison, donc qui devra intervenir en 2023.
Donc, c'est un partenariat, on le disait, avec l'usine Chastanier. C'est quoi le cœur de base pour l'activité de Chastanier ? Je crois qu'ils font de l'aéronautique.
Oui, c'est
quoi
ça. D'autre, voilà, c'est ça. Ils font de l'aéronautique. Et en fait, ils sont sous-traitants pour différents industriels, dont l'aéronautique.
Et ce partenariat donc, que vous allez faire avec eux, comme vous l'avez fait vous avec le consortium, c'est très important. L'union fait la force quand on veut faire de l'industrie made in France. C'est important de se regrouper. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est une question de savoir-faire. Nous, notre savoir-faire, elle est dans les scooters, dans le développement commercial de nos scooters et dans le développement des technologies de nos scooters. Ces industriels-là, c'est pareil pour le groupe Savoie, eux, leur métier, c'est vraiment celle d'industrialiser, de processer, de pouvoir accompagner le développement. Et donc, d'allier ces deux forces, pour nous, c'était un bon choix.
Alors donc, c'est une usine qui va être créée. Je crois que c'est une friche à l'heure actuelle. L'usine va être créée du côté du Mans, dans la Sarthe. Quelle superficie? Est-ce que vous avez déjà le nombre d'emplois qui vont être créés sur ce site?
Oui, on va avoir une première création d'une petite cinquantaine d'emplois sur ce site industriel. Ensuite, en fonction des montants en cadence, il est prévu des emplois supplémentaires.
Site de 4000 m2, hein. Voilà, oui. je crois. Vous me parlez d'emploi, c'est important. L'emploi dans l'industrie a souvent eu en France une mauvaise image. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez des difficultés à recruter? Je commence avec vous, Arthur.
Ouais, on a des difficultés à recruter dans l'industrie parce qu'à un moment, c'était présenté comme un métier qui n'était pas un métier d'avenir. Et au final, on voit que ça change tout doucement dans les mentalités, les jeunes qui viennent de plus en plus et qui, quand ils intègrent les entreprises industrielles, sont tout de suite séduits et se rendent compte qu'ils font quelque chose de concret au quotidien.
Même difficulté de votre côté pour l'usine, pour la future usine, même si c'est pas vous qui serez l'employeur, mais est-ce que vous sentez, quand vous parlez avec Chastanier, qu'il y a aussi des difficultés à recruter dans ce pan de l'industrie?
Absolument, même de manière globale, au-delà même de Chastanier, c'est parfois compliqué. Aujourd'hui, la mode est au logiciel, au software, mais comme le disait Arthur, je pense que les gens, quand ils viennent faire des stages de découverte, quand ils viennent à l'intérieur, ils comprennent qu'effectivement, c'est concret. Et c'est toujours plaisant de participer à de la création de valeur de quelque chose de très concret.
Et on sent que l'état d'esprit est en train de changer. Oui, il y a de la tech, oui, il y a du soft, etc. Mais il y a aussi des métiers plus ancrés dans le réel et qui sont très porteurs en plus en termes d'emploi. Le prix des scooters, alors le prix de vos scooters à l'heure actuelle pour les professionnels et le futur modèle pour les particuliers.
Alors le prix pour les professionnels de la livraison, puisque c'est ça le métier dont on parle, il commence à partir de 3000 euros. Et pour les particuliers, on a des gammes qui vont de 50 cm3 à 125 cm3 avec des niveaux de performance très élevés. Et donc le prix, on va être de 4000 à 9000 euros selon le véhicule, l'autonomie qu'on choisit et la performance qu'on choisit.
Dans le sujet de Justine que l'on a vu, on parlait de scooters produits en Chine et assemblés en France et personnalisés. Est-ce que donc ces scooters pour les professionnels, vous allez aussi en rapatrier la production ou est-ce que vous distinguez bien vos deux marchés et vos deux types de production?
Non, ça fait partie de nos valeurs, je dirais, pour la société. Pour nous, comme je le dis dans le reportage, un scooter électrique fait en Chine, c'est un non-sens. Maintenant, comme on est une jeune entreprise, on se concentre, on fait les choses étape par étape. On s'est concentré dans un premier temps sur le modèle E en France, qui va intervenir rapidement. Et ensuite, on accompagnera le changement pour le scooter livraison qui s'appelle le Pro 50 chez nous.
Tout ce que vous faites l'un et l'autre, ça nécessite des investissements. Jusqu'à présent, Red Electric a levé, je crois, depuis sa création 12 millions d'euros. C'est déjà une belle somme. Vous passez au financement participatif. Expliquez-nous cela.
Absolument. Pour nous, c'était au-delà même de l'aspect financier, c'était un départ qu'on voulait lancer sur cette aventure pour les particuliers, cette aventure B2C. Et finalement, on voulait créer une communauté et faire en sorte que les gens participent eux-mêmes à cette aventure. En tout cas, qu'on leur donne les moyens de participer à cette aventure. Et comme je le disais, au-delà de l'aspect financier, l'idée pour nous, c'était vraiment de les intégrer dans ce projet global, de leur dire, voilà, on ne vend pas que des scooters, on vend un projet global, participer à ce projet et devenez acteur de ce projet.
Donc c'est via la plateforme qui s'appelle
Crowdcube.
Voilà, et c'est jusqu'à quand cette ouverture possible?
C'est jusqu'à la première semaine de juillet. Et donc là, on a déjà fait plus de 100% de ce qu'on espérait.
C'est à quel niveau là pour l'instant?
C'est à 100. Le niveau, comment dire, l'objectif était à 500 000 et là on est à plus de 550 000.
Ah bah, voilà, ça veut dire que beaucoup de gens, dont vos clients, croient au Made in France. Il nous reste environ une minute, messieurs. Parlons un peu du soutien. On a beaucoup parlé de la réindustrialisation. C'est un effort qui est mis dans la bouche des gouvernants depuis très longtemps. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous-même vous êtes appuyé, soutenu financièrement ou pas? Par les collectivités territoriales, par BPI France, vous êtes dans le cadre de France 2030 ou pas? Qui veut commencer, Arthur?
Oui, nous on a eu des aides et des accompagnements dans le cadre de France Relance et puis notamment à travers la BPI. C'est assez important parce qu'en fait, si on veut réindustrialiser, il y a quand même des investissements massifs à faire et en tant qu'entreprise, on est prêt à prendre des risques, mais c'est vrai qu'être accompagné, ça permet aussi d'aller plus vite et d'aller un peu plus loin, d'avoir des volumes plus importants tout de suite parce qu'on on est quand même concurrencé par des machines industrielles qui sont féroces en face de nous, donc être soutenu par l'État, c'est important.
Même sentiment de votre côté, Valentin?
Pas exactement. Nous, comme on est sur un modèle hybride où en fait on passe par un sous-traitant, c'est un peu plus compliqué puisque c'est pas nous finalement qui créons ces emplois, etc. Donc on a un peu de mal à se mettre dans une case et avoir ces accompagnements. Je désespère pas qu'on y arrive. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je vois un vrai mouvement qui va vers cette réindustrialisation en France. Donc, c'est à nous maintenant.
Vive le produire en France et vive les entrepreneurs qui produisent en France. Merci beaucoup, messieurs. Donc, Red Electric et Groupe Savoie, deux groupes dont on continuera à parler sur BFM Business parce que c'est important, nous, dans les médias, de vous soutenir également dans vos démarches. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on a donc beaucoup parlé de souveraineté industrielle et de réduction de l'impact écologique, des enjeux qui sont aussi au cœur de la démarche de Raphaël Nicou. Il est le cofondateur d'Aquaré, qui se veut depuis près de 20 ans un hébergeur français indépendant de stockage de données, en quelque sorte une alternative tricolore aux GAFAM. Alors à ses clients, qui sont essentiellement des collectivités territoriales, mais aussi quelques PME, Aquaré propose des solutions web open source pour conserver le contrôle de leurs données. On écoute Raphaël Nicou, c'était il y a quelques jours, dans Good Morning Business.
Notre stratégie, c'est de maîtriser l'ensemble de notre chaîne de production. C'est-à-dire qu'on construit nos propres data centers, qu'on opère nous-mêmes, nous gérons notre infrastructure, et au-dessus de cette infrastructure maîtrisée, on a intégré une solution qui est construite à base de logiciels libres, sur laquelle nous, on apporte avec nos développeurs des fonctionnalités nouvelles. Et c'est finalement cet ensemble qu'on a appelé le nuage français et qu'on propose à une cible de clientèle qui est en quête de souveraineté. Nous, on a une certaine légitimité dans un marché qui est le marché du secteur public, puisque on fait ce métier depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un millier de collectivités locales en France qui utilisent nos services directement ou indirectement, le cloud d'Aquaré. Et donc là, notre stratégie, c'est d'adresser dans un premier temps spécifiquement ce marché des collectivités, hein, les petites villes, les villes de 5 000 à 50 000 habitants qui ont une démarche parfois militante en réalité, hein, qui cherchent des solutions qui leur permettent d'aller chercher autre chose que du Microsoft, hein, pour pas mettre les données des administrés forcément dans des clouds américains. Et donc on se rend compte qu'on a une bonne écoute et que notre message il est bien perçu de la part de cette clientèle. Donc notre stratégie, c'est commencer par là avec les clients qu'on connaît et ensuite doucement aller remonter et évidemment attaquer le secteur privé qui est également un de nos objectifs.
Alors il y a quand même un chiffre qui interpelle, c'est que le numérique en France pèse aussi lourd en termes de pollution que l'aviation. Donc on blâme beaucoup les gens de prendre l'avion, mais on devrait beaucoup blâmer les gens d'utiliser les data centers. Vous avez un de vos data centers basé à Ivry, vous êtes en train de construire une autre infrastructure pour 2024 avec une démarche et en tout cas une revendication tout à fait écologique. Expliquez-nous comment vous réglez l'équation data center sans pollution.
Alors, ce qu'on a envie de faire, nous, on est un petit, mais on veut se différencier. On veut changer de paradigme, on veut se passer totalement de système de climatisation, utiliser la géothermie pour refroidir les espaces de serveurs informatiques, mais pas seulement, parce que ça, finalement, c'est assez classique. Nous, on veut également recycler ce qu'on appelle faire du recyclage de chaleur fatale. Donc, c'est récupérer la chaleur qui est dissipée par les serveurs informatiques qui se trouvent dans nos data centers et la réutiliser immédiatement, in situ, dans le cadre d'une autre activité. En l'occurrence, notre projet consiste à produire des micro-algues dans le centre de données qui seront ensuite destinées à l'alimentation. L'alimentation humaine, on fait des boissons avec ces micro-algues. Donc c'est finalement comme ça qu'on réussit à adresser, je pense, cette problématique d'écologie, réduire la consommation d'énergie et réutiliser l'énergie perdue, la chaleur qui est perdue par les serveurs des data centers.
Voilà, réutiliser la chaleur générée dans les data centers, comme on disait dans les années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais au moins on a des idées. Allez, à présent, direction deux très beaux départements qui fleurbont le midi de la France, la Drôme et le Vaucluse. C'est là que la célèbre marque Charles & Alice possède deux usines de transformation de fruits et de production de compotes. Vous connaissez sans doute cette marque qui a fortement progressé dans les ventes ces dernières années. Charles & Alice fait travailler de très nombreux producteurs de fruits en France et elle emploie directement 450 personnes sur ces deux sites de transformation. On écoute Thierry Goubeau, c'est le président de l'entreprise.
Une des caractéristiques aussi de Charles & Alice, c'est qu'on essaie de travailler qu'avec des fruits français, autant que faire se peut, bien sûr, et en particulier sur la pomme, puisque la pomme est l'ingrédient de base pour faire nos produits, et que toutes nos pommes, on les achète en France.
Vous avez 450, même un peu plus, employés, et vous... Donc, faites pousser les fruits et vous les transformez, ce qui est quand même assez atypique dans cette industrie.
Alors, c'est pas nous directement qui faisons pousser les fruits. On travaille en partenariat avec les arboriculteurs, avec lesquels on développe des contrats de partenariat, même certaines fois sur 15 ans, en particulier sur la poire William.
Parce que donc, les 450 salariés ne sont que dans les ateliers de transformation.
Les 450 salariés.
C'est beaucoup quand même.
On transforme à peu près 90 000 tonnes de compote par an. Donc c'est effectivement assez important. Et on a deux sites de production, un dans la Drôme et un dans le Vaucluse. Et par contre, on développe effectivement des partenariats avec les arboriculteurs.
Et au final, une partie est vendue en grande et moyenne surface et une partie en consommation hors foyer. C'est quoi? C'est les écoles?
C'est ça. C'est principal. Alors on a à peu près la moitié de notre activité en grande et moyenne surface, et la moitié de notre activité en restauration hors foyer. Donc ça va être les écoles, ça va être les entreprises, les cantines d'entreprises, ça va être aussi la santé, les milieux de la santé, que ce soit hôpital ou à la maison de retraite, voilà.
Et on va rester dans le merveilleux monde du sucré et des desserts avec Amorino. Vous l'ignorez sans doute, mais cette marque de glace qui a tous les codes de l'Italie, eh bien, elle est en fait bien française. Elle a tout de même été fondée il y a tout juste 20 ans par deux amis d'enfance, italiens d'origine, mais vivant en France. Et 20 ans après, le succès est au rendez-vous. Il se vante un cornet Amorino toutes les 5 secondes dans le monde, car la marque est présente dans de très nombreux pays. Et le plus incroyable, eh bien, c'est que toutes ces glaces Amorino vendues dans le monde sont fabriquées dans un seul et même atelier à Orly, près de Paris. Donc, Paolo Benassi, l'un des deux cofondateurs d'Amorino, était l'invité de BFM Business il y a quelques jours.
Est-ce que toutes les glaces continuent à être fabriquées en France?
Oui, toutes les glaces sont fabriquées en région parisienne, à Orly.
Ouais.
On a un seul laboratoire qui nous permet de maîtriser la qualité et séparer l'activité de production des glaces de la vente. Aujourd'hui, nos boutiques s'occupent uniquement de vendre, c'est un métier différent, et nous, on s'occupe... On est artisan glacier, on fabrique les glaces pour tout le réseau.
Mais ce n'était pas le cas au début. Au début, c'était chaque boutique qui fabriquait ces glaces et vous avez tout centralisé à Orly.
Au début, on avait un petit labo derrière chaque boutique. Mais on s'est vite rendu compte que si on voulait grandir, si on voulait garder la même qualité du produit, il fallait centraliser la production. Chose qu'on a faite en 2006 sans que les clients puissent s'en apercevoir parce que la qualité est exactement la même.
C'est quoi la zone de diffusion?
La zone, ça va entre l'Europe jusqu'aux États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Calédonie.
Donc en Nouvelle-Calédonie, au Mexique, on mange des glaces.
On mange des glaces à Amorino.
Fabriquées à Orly.
Ce sont les mêmes glaces qu'on mange à Paris.
Mais c'est bien raisonnable à l'heure des préoccupations sur les coûts du transport, le climat.
Je pense que les gens en Nouvelle-Calédonie, ils ont quand même le droit de manger des bonnes glaces. Il n'y a pas de lait là-bas. Donc, dans tous les cas, s'ils n'achètent pas Morino, ils achètent d'autres marques.
Alors, il faut tout le temps se renouveler. Vous l'avez dit que votre atout, c'est la qualité de service et c'est la qualité des produits, mais ça ne fait pas tout au bout de 20 ans. Comment on fait pour se renouveler dans le cœur des consommateurs, faire de nouveaux produits, de nouveaux parfums?
Ben, il y a de nouveaux parfums, il y a de nouvelles exigences. Aujourd'hui, il y a des clients qui aiment le biologique, donc on propose des sorbets biologiques. Tous nos glaces sont végans, les sorbets sont végans, sans gluten. Donc aujourd'hui, il y a une clientèle qui est très exigeante. Donc on développe des parfums spécifiques et on lance de nouveaux parfums tous les ans. Cette année, ce sont des sorbets avec des superfoods, avec l'açaï, avec l'acérola, avec les gingembre. Donc, il faut toujours innover, être à la pointe. Mais on a eu une saison qui, cette année, est exceptionnelle.
Vous avez l'intention d'ouvrir d'autres boutiques dans l'année, dans les deux ans?
Oui, nous, on ouvre environ une trentaine de boutiques par an. Donc, cette année, on a déjà une quinzaine. Il y a d'autres boutiques qui vont ouvrir en France, à Londres, aux États-Unis, au Mexique.
Et vous avez les capacités industrielles de faire face à cette demande de vos boutiques?
Oui, aujourd'hui, on est à peine à 50% de notre capacité de production.
Donc, il y aura de la glace pour Noël et pour l'été.
Et il y aura toujours de la place pour les glaces, à Morino ou autre, et celles-ci en tout cas sont françaises, et c'est pour cela qu'on les a mises à la une et à l'honneur dans la France, à tout pour réussir. On se retrouve le week-end prochain, ce sera déjà le mois de juillet, pour le 283e numéro de notre rendez-vous hebdomadaire de l'économie positive. D'ici là, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.